posé cette question, je me dis, peut-être parce que finalement, les dirigeants, en tout cas de l'époque, ne remplissaient pas complètement le rôle que Dieu attendait d'eux auprès du peuple. C'est une question que je me pose. Quoi qu'il en soit, le message devait être transmis. Que ce soit un message de joie, que ce soit un message déplaisant, on pense à Jérémie, prophète de malheur, le message devait être transmis. Quel que soit ce qu'il disait, il venait de Dieu, et tellement ce message pouvait être mal reçu, Dieu encourageait les prophètes à le délivrer malgré tout. N'oublions pas que même si ces messages sont déplaisants, peuvent être déplaisants, ce ne sont pas des messages qui sont là pour faire peur. Ce sont des messages pour rappeler le peuple à une conscience, à prendre conscience aussi des décisions qu'ils devront prendre en vue de ce que Dieu leur annonce et des événements qui vont arriver. N'oublions pas que nous sommes censés être heureux parce qu'on lit et qu'on entend les paroles de la prophétie. Apocalypse 1, verset 3. À côté de ça, il y a la notion de la sentinelle. Divine nous a fait une histoire dessus. Est-ce que vous voyez un lien entre sentinelle et prophète? Non, oui, non. J'avais beaucoup de monde au bonjour et là, finalement, vous êtes beaucoup dans la réflexion. Je prends ça comme ça. C'est vrai. Oui, il y a une nuance. Enfin, il y a un lien entre sentinelle et prophète. Donc, d'après ce qu'on a vu, ce que Divine a dit, la sentinelle est là pour prévenir, pour avertir, pour mettre en garde quand un événement arrive. La sentinelle a, comme le prophète, une mission de transmettre un message. Le prophète reçoit un message de Dieu, tandis que la sentinelle doit transmettre un message basé sur ses observations. La sentinelle, au départ, elle est sur une muraille, elle est en hauteur et elle voit les choses aux alentours de du lieu qu'elle protège. La sentinelle devra transmettre un message aux personnes dont elle a la responsabilité, dans un sens, pour baser sur ce qu'elle observe. Elle a des destinataires précis, en l'occurrence le peuple qu'elle protège, entre guillemets, tout comme le prophète, qui lui aussi a des destinataires précis. On peut prendre l'exemple d'Israël, qui était souvent le destinataire des prophéties de Dieu. Et la sentinelle a la responsabilité de la transmission du message, comme le prophète. On peut lire Ézéchiel 3, verset 33, 6 à 7. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celle-ci périra à cause de son iniquité, mais je demanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël, tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et avertir de ma part. Le lien, il est clair entre prophétie et sentinelle à travers ce verset. C'est quand même assez indiscutable. Elle a une responsabilité, parce qu'elle a une connaissance particulière, et elle a la responsabilité de la vie de certaines personnes. Donc, elle a un message de vie à transmettre, quand bien même ce message déplairait. Le but de la prophétie est de préparer et de sauver des vies. On peut lire dans 2 Pierre 1, versets 19 et 21, « Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. » Vous faites bien de prêter attention. « Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par la volonté de l'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » La prophétie, le rôle est aussi là-dedans. C'est vraiment différent de l'inquiétude que l'on peut avoir. Ce n'est pas normal. Il faut se demander pourquoi, quand on parle de prophétie, on est inquiet. Dans la Bible, il n'y a pas de message qui dise que la prophétie doit faire peur. Nous avons d'autres textes, donc Jean 14, verset 29, qu'on a lu tantôt, mais également Matthieu 2, verset 1 à 12, qui nous parle un peu de prophétie. Donc, le texte de Matthieu 2 parle de la prophétie qui est la base de notre foi, la prophétie de la venue de Jésus. J'ai une question pour vous. Si Jésus était venu comme il est venu, et qu'on ne savait pas qu'il devait venir, est-ce qu'on aurait compris qu'il était le Messie? Réfléchissez-y. Je lance un caillou dans la mare. Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Donc on voit les mages qui sont venus à Jérusalem parce qu'ils ont vu une étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant, Marie, sa mère, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent les trésors et lui offrirent pléthore de cadeaux. On va un peu s'arrêter sur la réaction de différentes personnes qui gravitent autour de la réalisation de cette première prophétie. Les pharisiens. Donc prenez les textes, Ésaïe 7, verset 14, Ésaïe 53. Ce sont des textes, normalement, que les pharisiens, responsables religieux, lisaient au peuple. Ils avaient donc une certaine connaissance. La preuve, ils avaient tellement la connaissance des prophéties qu'ils ont été en mesure de renseigner les mages et Hérode sur où et quand allait naître l'enfant Jésus. Donc finalement, ils avaient une certaine connaissance. Ils avaient donc cette aussi responsabilité de préparer le peuple et de transmettre cette connaissance. Comment ça se fait que malgré le fait qu'ils ont eu cette connaissance, qu'ils se sont rappelés de cette connaissance par la lecture et l'information aux mages, qu'ils n'ont pas agi différemment? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas recherché à rencontrer cet enfant, à aller vérifier par eux-mêmes que la prophétie s'était réalisée ou pas encore? Ils ont su enseigner la prophétie, mais n'ont pas su la vivre. Et encore, est-ce que leur message a vraiment été correctement envoyé, étant donné que le peuple n'attendait pas réellement avec action et activement le Messie? Il y a maintenant les mages. Les mages, eux, ne connaissaient pas la prophétie. Par rapport à leur croyance, paf, une étoile dans le ciel, et se disent: oh, il y a un roi qui est né. Et ils ont commencé à chercher, à suivre cette étoile. Ils ont même su que c'était le roi des Juifs qui venait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont suivi ce signe. Ils ont suivi cette piste qui leur a été donnée par la nature. Et je crois par Dieu lui-même. Ils l'ont suivi. Et finalement, ils ont été en recherche de réponses auprès de ceux qui étaient en mesure de leur répondre. Et ils ont eu leur réponse. On a aussi Hérode. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec lui? Hérode, il a été troublé quand les mages sont arrivés. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ceux qui étaient au courant des prophéties de le renseigner lui aussi. Il s'est renseigné, il a été bien renseigné, et on a vu les résultats. Il a su que le fils de Jésus était né, le roi des Juifs était né, mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un danger pour lui, il a voulu mettre fin à cette prophétie, parce que son trône lui semblait être compromis. Et qu'est-ce que les pharisiens ils ont fait quand Hérode a voulu tuer les enfants? On ne dit pas que les pharisiens ont fait une quelconque intervention pour empêcher que les enfants soient tués. quelle devait être leur réaction, je laisse ça à votre réflexion. On a Jean-Baptiste. Ah, lui, c'est quand on parle de Jésus, on voit Jean-Baptiste parce que c'est le gars qui hurlait dans le désert. On pourrait se poser la question de est-ce qu'il était saint d'esprit? Vu comment il était fringué, vu comment il hurlait, vu comment il était violent dans ses paroles, il était presque insultant. La race de vipère. Ah, on vous dirait ça aujourd'hui, vous vous sentiriez comment là? C'est... Moi, j'aimerais pas. Ne me le faites pas. Hein. Si un jour vous voulez me faire une remarque, optez pour une autre approche, s'il vous plaît. Quoi qu'il en soit, malgré le fait qu'il était violent, virulent, qu'il était fougueux, et il y avait un comportement discutable, il était très populaire. Qu'est-ce qu'on peut prendre de cette attitude pour nous aujourd'hui? Sur la route d'Emmaüs, on constate aussi que les disciples qui étaient tristes de ce qui était arrivé ont été réconfortés. Comment est-ce qu'ils ont été réconfortés? Est-ce que vous vous souvenez? Comment? Quand Jésus leur est venu, il les a consolés en leur rappelant toute la prophétie. Et là, je laisse William prendre la suite.
Anne l'aura bien introduit tous ces éléments pour bien comprendre qu'est-ce que la prophétie a à nous apporter. Il est vrai que très souvent, quand on parle de prophétie, les gens ont peur du message parce qu'il y a des choses assez dures parfois dans les mots des prophètes et il faut vraiment bien sûr aller au-delà de ces mots pour voir le message que Dieu voudrait que l'on puisse retenir. On nous parlait de la route d'Emmaüs. Les disciples étaient découragés parce que Jésus était mort. Imaginez que pendant 3 ans et demi, ils ont suivi Jésus qui était censé être leur maître. Les prophéties parlaient de Jésus qui allait devenir roi des Juifs. En tout cas, c'est ce qu'ils ont retenu de la prophétie. Et là, ils voient leur espoir qui s'effondre. Jésus meurt. Ils vont se cacher parce qu'il n'y a plus rien. Enfin, ils n'ont plus rien à quoi se raccrocher. Et dans la suite de l'histoire, quand Jésus revient, Jésus va les rencontrer sur la route d'Emmaüs. Et là, il va discuter avec eux et il va utiliser les prophéties pour ranimer en eux le courage. Il ne va pas leur dire que c'est lui. Il va juste rappeler ce que le Messie devait faire au travers des prophéties. Donc on voit ici que les prophéties encouragent. Mais il faudrait en fin de compte avoir un regard positif sur les prophéties pour être encouragé. C'est-à-dire que quand on lit ces histoires, il faudrait les regarder avec un angle de vue différent pour réussir à tirer des leçons qui soient beaucoup plus... qui fortifient. Maintenant, j'aimerais rajouter dans la liste des personnages qui ont entouré la naissance de Jésus, les parents de Jésus et les bergers. Les bergers, ce sont certainement des Israélites. Ils étaient bien sûr en train de s'activer par rapport à leur boulot. Et là, il y a un ange qui va venir pour leur indiquer le chemin pour retrouver le Messie. Et donc, ils devront suivre une étoile, enfin aussi, mais on parle d'ange, en fait, qui montrait une direction. Et là, ils vont trouver le lieu de la naissance du Messie pour adorer le Messie. Mais la partie qui m'a beaucoup interpellé, c'est celle des parents de Jésus. Anne-Laure l'a dit tout à l'heure, les parents de Jésus, ils ont une prophétie particulière. C'est vrai que l'histoire de Marie, on la connaît, mais les parents de Jésus ont porté la prophétie. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, c'est-à-dire que Jésus devait venir au monde. L'ange avait annoncé la venue de Jésus à Marie, et Marie, en fait, portait tout le témoignage de la prophétie en elle. Je ne sais pas, donc cet angle de vue n'est pas souvent présenté. On montre juste que Jésus naît par Marie, mais Jésus, c'est la prophétie, c'est la réalisation de la prophétie, tout ce que les Juifs attendaient. Et une femme portait en elle tout ça. Dieu a choisi donc quelqu'un qui soit un être humain faible pour enseigner le Fils de Dieu, Je ne sais pas si vous voyez en fait contre la dimension que tout cela relève. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui qu'il devait éduquer. Il devait éduquer Jésus qui est fils de Dieu et Dieu lui-même. Donc Jésus avait besoin en tant qu'homme d'être éduqué par des êtres humains. Et Dieu a choisi des êtres humains qui seraient en mesure de remplir cette fonction. Donc, les parents de Jésus, j'aimerais qu'on reste particulièrement, que vous gardiez ça dans votre esprit, on va revenir là-dessus. Mais le point important de ce sujet qu'on présente, c'est de voir l'importance des personnages qui vraiment entourent. Je vais refaire un petit point sur chacun d'eux. Il y a d'abord Hérode, il y a soit sacrificateurs, tout dépend des versions, des pharisiens, en tout cas des personnes responsables d'Israël, qui sont qui ont entouré aussi la naissance du Messie. Il y a les mages, il y a encore le peuple d'Israël, parfois on ne voit pas, parce que le peuple aussi participe à tout ça. Il y a les bergers, il y a Marie, et aussi il y a Jean-Baptiste. Il y en a d'autres. Mais on va rester en fin de compte tous ces personnages. Il y a quelque chose que j'ai remarqué en étudiant, en fin de compte, le texte de la naissance de Jésus. Tous ces personnages-là représentent la réalité du peuple d'Israël. Au niveau de la société israélite, on a là tous les personnages, les rangs importants. Tout le monde est concerné. Et on voit que dans le texte d'Ésaïe, Dieu avait annoncé la venue de Jésus depuis des centaines d'années auparavant. Ce qui fait que les Juifs qui avaient reçu tous ces éléments devraient normalement maîtriser le lieu de la naissance de Jésus, les conditions de sa vie, même le fait qu'il allait mourir, le fait qu'il serait roi des Juifs, tous ces éléments-là devraient normalement être maîtrisés par les Juifs. De telle sorte que quand les mages arrivent à Jérusalem, que les Juifs soient en mesure de donner les détails, pas simplement lire ce que le texte dit, mais beaucoup plus que liant, montrer vraiment le chemin. Et ce qui est assez particulier, c'est que les Juifs, normalement, devraient être même avant-gardistes. Vous imaginez que, je prends les mots de l'époque, des païens, donc ces mages qui sortent de leur pays, ils viennent à Jérusalem pour rencontrer le roi des Juifs. Ça ne vous semble pas étonnant? Et que les Juifs eux-mêmes, c'est quand les mages arrivent, qui sont interpellés sur la question de la naissance du Messie et qui vont voir dans les livres pour voir, pour certifier que c'est vrai. Si les Juifs sont normalement choisis par Dieu pour être des représentants de Dieu dans le monde, ils devraient normalement être les premiers à rechercher le Messie. Je pense que ça, c'est tout à fait normal. Mais bizarrement, ce sont des païens qui, eux, ont beaucoup moins d'informations, qui vont rechercher le Messie, qui vont le trouver, et voire même que quand ils retrouvent le Messie, un ange interdit aux mages de retourner à Jérusalem pour donner le lieu de la naissance du Messie, alors que les Juifs sont censés accueillir le Messie. Ça, c'est une leçon assez particulière que Dieu est en train de nous donner. Il y a des gens, c'est-à-dire que nous sommes adventistes du septième jour, peut-être en majorité, nous lisons la Bible, et normalement nous devrions être avant-gardistes sur pas mal de choses qui se passent dans le monde, sur les choses de l'avenir, parce que Dieu a tout mis dans la parole. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'il ne serait pas, je ne vais pas dire juste, mais assez, ce serait surprenant, en fait, compte que Dieu puisse plus parler à des gens, des étrangers, qui peut-être n'ont pas accès à tout ce qu'on a, et qui, eux, recherchent la vérité et la découvrent avant nous. C'est ce qui est assez troublant dans l'histoire d'Israël. Il y a le peuple d'Israël qui, quand ils vont savoir que le Messie est arrivé, le texte nous dit qu'ils sont juste consternés, enfin, ils sont troublés. Vous imaginez, c'est-à-dire que dans toute l'histoire, ils sont juste troublés. On ne dit pas qu'il y a un travail en eux, je ne sais pas, une recherche particulière, juste troublés. Et ça révèle quelque chose d'important et d'assez grave. Donc, j'aimerais vraiment que, dans l'approche que j'essaie de montrer, que de ne pas rester sur les sensibilités. La prophétie parle de choses qui sont peut-être choquantes, mais qu'on aille au-delà de tout ça, de voir vraiment le message que Dieu veut nous faire comprendre au travers. Et si on croit réellement que Jésus est amour, que Dieu est amour, ça veut dire que dans les histoires, dans ce qu'on va voir, l'amour de Dieu est révélé. Le texte, donc, Jésus s'adresse donc à différentes personnes. Je parlais de couches au niveau de la société juive. Donc, il y a le roi des Juifs qui est romain, enfin, il n'est pas vraiment romain, mais ça veut dire qu'il est de la descendance asmoréenne. Donc, il a un lien avec les Juifs et en même temps avec les Romains. Ce personnage, on l'a placé en tant que roi des Juifs. Pourtant, selon le principe d'Israël, Hérode ne pouvait pas être roi des Juifs. Parce qu'il n'était pas vraiment du peuple d'Israël, c'est-à-dire que sa position ni son rang ne pouvaient pas permettre qu'il le soit. Pourtant, il a été choisi pour être roi des Juifs. Maintenant, il y a, en dessous de Hérode, il y a les responsables religieux. Les responsables religieux, comme disait, c'est eux qui dirigent le peuple et qui ont toute la connaissance pour que le peuple puisse accueillir le Messie. Il y a le peuple d'Israël, quand ils entendent parler de la prophétie, ils sont juste consternés devant ce qu'ils entendent, troublés. Et il y a donc maintenant les mages, donc on a vu des païens qui viennent et qui connaissent la prophétie. Et on a encore donc les bergers qui sont aussi d'Israël et qui reçoivent le message d'un ange et qui suivent l'ange pour accueillir le Messie. Et nous avons les parents de Jésus qui vont porter eux-mêmes la prophétie en leur cœur. Tous ces éléments-là arrivent à un moment précis dans l'histoire, puisqu'on sait que lorsque l'on prend, pour avancer un peu, lorsqu'on va prendre les prophéties pour entrer de plein pied dedans, Dieu avait annoncé par le prophète Daniel que 70 semaines donc prophétiques étaient amenées sur Jérusalem pour mettre fin au péché. Et on voit vraiment beaucoup d'éléments quand on prend ce texte, vraiment mettre fin au péché, aux transgressions. Et donc, les Juifs, normalement, devraient, par rapport aux 70 semaines, être capables de calculer ça pour savoir quand le Messie devait arriver. Donc ici, je parle de prophétie de temps. Dieu dit 70 semaines. Et dans Ézéchiel 4, comme dans Nombre 14, il y a des éléments qui expliquent comment on peut avoir une lecture de les années prophétiques. Et William Miller, qui est en fin de compte à l'origine de ce qu'on vit aujourd'hui, le mouvement adventiste, a compris que Ézéchiel et Nombre parlaient justement de un jour égale un an. Et à partir de ça, William Miller a pris la prophétie des 70 semaines et a compris que c'était équivalent à 490 années. On ne va pas entrer dans les calculs, vous pouvez le faire chez vous. Donc, réussir à mettre les 70 semaines en jours et définir que chaque jour est une année et en fait, quand il tombe dessus. Et à partir de ce moment-là, il a pu comprendre le moment où Jésus allait arriver au monde. Donc, la date précise. Et bien sûr, date qui ne tombait pas avec ce que l'Église catholique avait établi comme date de naissance de Jésus. Maintenant, ce qui est important, c'est que Dieu révèle les choses pour qu'on les comprenne. Dans la vision juive, Nazareth n'est pas un pays, en fait, qui ait un caractère positif. Et donc, il y a un certain Nathanaël qui va dire que peut-il sortir de bon de Nazareth. Et pourtant, c'est Jésus qui est sorti de Nazareth et qui a justement amené cet amour dans le monde que tous les êtres humains avaient besoin. J'aimerais maintenant, à partir de ces 70 semaines qu'on a pu voir, réaliser que quand Dieu va donner cette prophétie à l'homme et qu'il va parler de mettre fin au péché, on va voir que toutes les personnes qui sont censées accueillir le Messie au bout de ces 70 semaines, en tout cas dans cette période, finalement ne peuvent plus être réellement ceux qui vont accueillir le Messie et que Dieu va se va se déporter sur d'autres personnes, un petit groupe de personnes qu'on appelle les disciples, qui vont, eux, reconnaître Jésus et qui vont le suivre. Donc, sur tout Israël, il y a juste un petit groupe qui ressort et qui finalement devient en fin de compte, la suite de Jésus. Alors que Israël, dans son ensemble, aurait dû être, devait se diriger vers Jésus, et aujourd'hui, peut-être que le christianisme n'existerait pas. Si les juifs, le judaïsme avait accepté Jésus, il aurait certainement changé d'aspect, et en fait, ce serait le judaïsme avec cette vision de Jésus qui existerait aujourd'hui. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Israël, un petit groupe, est ressorti de ce peuple, et ce groupe, c'est eux qui ont amené l'évangile dans le monde. On va aller un peu plus loin. Daniel avait donné une autre prophétie. Cette autre prophétie, c'était les 2300 soirs et matins. Et bien sûr, William Miller a aussi utilisé le même calcul de un jour égale un an pour comprendre ce que signifie cette durée. Et là, dans ses calculs, il est tombé sur une date qui concerne 1844, donc la naissance où l'Église adventiste va émerger. Et tout cela va faire comprendre que l'Église adventiste finalement a un rôle prophétique. Donc l'Église adventiste a un fondement prophétique qui fait qu'elle a un but de présenter un message, donc comme Jérémie ou bien les autres prophètes, de parler de choses de l'avenir. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la fin de cette période de 2300 soir et matin, c'est le même type de finalité que pour la naissance de Jésus. C'est lié au fin compte à la question du péché. Quand on regarde les personnages qui étaient censés accueillir le Messie et que l'Église adventiste, par exemple, dise que nous sommes un mouvement prophétique parce qu'il y a les 2300 soirs et matins qui nous concernent. Ça veut dire que l'Église adventiste dit, en disant ça, elle accepte le fait que elle soit dans les mêmes conditions que ceux qui ont accueilli Jésus. Je ne sais pas si ma pensée est comprise. Je vais la redire autrement. De manière logique, quand l'Église adventiste va accepter l'idée qu'au bout de cette durée de 2300 soirs et matins, elle va prendre naissance, et donc qu'elle a un rôle prophétique, ça veut dire indirectement que lorsqu'on regarde les 70 semaines et les gens qui ont accueilli le Messie, l'Église adventiste devrait être dans la même logique que les disciples. Je ne veux même pas dire que je parle de Hérode ou bien de les pharisiens et tout. Non. Je vais beaucoup plus loin. Je dis que l'Église adventiste devrait être comme les disciples qui ont reconnu Jésus et qui sont entrés dans le ministère. C'est tout à fait normal. Maintenant, il y a un message que Dieu veut nous montrer, veut nous indiquer au travers de ce qu'on va voir là. Il faudrait que chaque personne, chaque adventiste évite ça. De se retrouver dans la condition des pharisiens, de Hérode, de toutes ces personnes qui n'ont pas réussi à reconnaître le Messie. Parce que nous, on attend le retour de Jésus. Eux, c'était pour la venue, la première venue. Nous, c'est on attend la seconde. Ça veut dire qu'on est placé dans les mêmes conditions que les gens du passé. Ce qui fait que normalement, on doit être actif et être prêt à accueillir Jésus. Je ne dis rien de spécial là, c'est-à-dire que c'est tout à fait normal ce que je suis en train de dire. Si nous sommes un mouvement dit prophétique, si nous avons une compréhension de la parole de Dieu, nous lisons la Bible tous les jours, nous attendons le Jésus, ça veut dire qu'on doit être avant-gardiste sur l'avènement de Jésus. Qui fait que on doit trouver dans le peuple adventiste aucune personne qui soit en lien avec ceux qui n'ont pas reconnu le Messie. Et même si, par exemple, je dis Apocalypse, par exemple, nous dit que Jésus viendra comme un voleur dans la nuit. Mais Jésus viendra comme un voleur pour ceux qui ne sont pas prêts. Parce que un voleur, il vient à une heure où les gens dorment. Donc, c'est-à-dire que si nous sommes réveillés, le voleur ne peut pas en fait compte venir. Donc, c'est ça le message indirect. J'aimerais, au travers de ce qu'on a vu chez ceux qui ont accueilli Jésus, réaliser que dans le monde qui nous entoure, il y a des gens qui regardent les signes qui se passent dans le monde. Par exemple, on a des guerres. On a, enfin, qu'est-ce qu'il y a encore? Catastrophe naturelle. Il y a plein d'événements que la Bible va annoncer qui annonceraient la venue du Messie, enfin de Jésus. Qu'est-ce qu'on doit en faire de tout, qu'est-ce qu'on doit faire de toutes ces informations? L'histoire de Jésus dans sa naissance nous montre que des gens, des étrangers, qui n'étaient pas juifs, ont reconnu au travers des signes que le Messie allait prendre naissance. Maintenant, nous, aujourd'hui, il est facile de trouver des gens qui regardent les signes qui se passent dans le monde et qui savent, ils ressentent quelque chose qui va se passer. Même au niveau politique, quand on s'intéresse à la politique, on voit que les gens, au niveau l'écologie, au niveau de l'écologie, il y a beaucoup de personnes qui voient les signes, donc le monde qui est en train de toucher à sa fin. Même les scientifiques disent que la Terre risquerait d'exploser. Parce que pour la Terre arriver à une sorte de limite. Même les scientifiques reconnaissent qu'il y a un problème qui se passe dans le monde. Comment nous, adventistes, on interprète ça? Est-ce que pour nous, quand on parle par exemple des tremblements de terre, ben, quand on parle d'ouragans, des choses comme ça, est-ce que pour nous c'est juste des phénomènes naturels? Bon, tremblements de terre sont des plaques qui se frottent, qui fait la terre trembler et tout. Est-ce que pour nous c'est juste ça? Ou comme la prophétie le dit, ce sont des signes qui accompagnent la venue de Jésus. Ce que je veux qu'on comprenne dans ça, c'est que n'ayons pas le regard que les pharisiens ont eu à leur époque. Quand ils avaient les textes qui disaient que Jésus allait arriver. Donc, ce qui fait que ils maîtrisaient tout ça. Ils devraient maîtriser tout ça. Et ils ne devraient prendre aucune information à la légère. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, même quand les mages sont venus les voir, ils auraient dû suivre les mages. Nous, aujourd'hui, quand on voit des gens dans le monde qui essaient de comprendre les signes qu'ils voient dans le ciel, qui voient plein de choses qui se passent dans le monde, ils ne comprennent pas ce qu'il y a, quel comportement on devrait avoir vis-à-vis de ces gens? Il y a un message important que Dieu nous transmet au travers du passé. C'est-à-dire que normalement, on devrait être aussi ceux qui recherchent. Parce que quand Jésus vient, on doit l'accueillir. Non pas être surpris parce qu'il arrive, on doit l'accueillir parce qu'on est préparé à le recevoir. Voici. Donc c'est vraiment le cœur, en fait, du message qu'on avait aujourd'hui. Je ne dis pas de suivre toutes les théories que les gens mettent en avant lorsqu'on parle de tout ce qu'on voit dans le monde, des trucs complotistes, en fait, ou des choses comme ça. Mais il y a des éléments importants. C'est-à-dire que si des gens venait à nous voir aujourd'hui, chacun de nous, et il nous posait des questions, il nous dit, je vois des choses qui se passent dans le monde, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe? Quelle serait la réponse apportée à leurs questions? Est-ce que l'on serait comme les pharisiens qui ont juste dit, voici, bon, le texte dit ça, et il n'y a aucun réveil intérieur, ou est-ce qu'on serait parmi ceux qui se disent, eh bien oui, il y a ça qui se passe, et oui, on attend la venue du Messie, et que, expliquer ce que le texte nous dit par rapport à tous ces événements, donc de ne pas avoir peur, parce que la prophétie est faite justement pour nous encourager, comme les disciples qui étaient découragés. Donc c'est-à-dire que quand on voit ces personnes qui pourraient nous poser des questions, on devrait les aider, les encourager pour leur montrer qu'ils ne doivent pas avoir peur de ces événements, parce que la Bible parle de ça, la Bible nous encourage et nous dit que ça va arriver, mais que Dieu donne le moyen de traverser tout ça sans difficulté. Quand on dit difficulté, bien sûr, il y en aura, mais la victoire est au bout. Voici. Donc c'est juste ça. Si c'est ça est compris du message qui a été transmis aujourd'hui, je pense que Dieu peut faire beaucoup avec ce petit élément. Donc j'espère en tout cas que chacun a compris l'importance de la prophétie et qu'il ne faut pas en avoir peur, parce que c'est pas pour ça que Dieu a mis la prophétie dans la Bible. C'est justement pour nous aider que quand ça arrive, eh bien, on n'a pas peur. Et c'est nous qui pouvons aider ceux qui ont peur. Parce que nous, on sait, on est fortifiés parce qu'on sait ce que ça veut dire. Donc, j'espère en tout cas que Dieu pourra faire un travail efficace avec ce que nous lui donnons et donner à Dieu le meilleur de vous-même. Pour moi aussi, je parle pour moi aussi quand je le dis, pas pour vous seulement. Donc, donnons à Dieu le meilleur de nous-mêmes et allons de l'avant pour que que nous attendions le Messie comme il le veut, comme il le souhaite et comme nous le devrions en tant qu'enfants de Dieu.
Le but n'est pas non plus de vouloir mettre une date sur son retour. On a parlé de date sur la première venue, mais ce n'est pas le but pour la deuxième venue. Dieu nous a bien dit que personne ne sait sa date de retour, pas même Jésus-Christ, quand il était sur terre. Le but, c'est vraiment d'attendre et d'être actif dans cette attente, d'être actif par l'étude de la prophétie, d'être, comme disent les Anglais, aware, d'être vraiment vigilant par rapport à tout ce qui se passe, pour finalement être aussi, on dit, être la lumière du monde. Oui, être la lumière du monde par notre comportement. Oui, être la lumière du monde par notre différence. Mais aussi être la lumière du monde et le sel de la terre, parce que nous éclairons sur des événements qui ne sont pas encore ou qui ne sont pas complètement ni correctement compris. Voilà, c'était notre message pour vous aujourd'hui, qu'il puisse être semé sur une terre favorable et continuer sa croissance pour le salut de chacun et des personnes que l'on pourra éclairer. Amen.